Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette séance numéro 54 du thème service en temps de défi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine jusqu'à maintenant. Que le Seigneur vous comble de bénédictions et de révélations et de plein de choses que nous rencontrons en lui. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans le décor habituel des dernières semaines de l'Église. Il y a eu un petit pépin technique assez important, une panne d'électricité. Fait que ça nous oblige à nous adapter, à avoir un plan B, parfois un plan C. Donc, ce que vous voyez en arrière, ce n'est pas un arrière-plan virtuel, c'est bien réel, mais je vous en dirai pas plus. Donc, sans plus tarder, on va prier, on va remettre ce temps des mains du Seigneur, puis on va demander que Dieu nous parle, que Dieu nous instruise. On a besoin d'entendre la parole de Dieu, on a besoin de connaître davantage du Seigneur et quelle belle opportunité nous avons de pouvoir avoir ce partage. Donc, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour la vie, Seigneur, pour cette journée, cette opportunité, Seigneur, que nous avons d'être réunis en ton nom, Seigneur, de pouvoir avoir ce partage, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par ta bonté. C'est toi qui permets ces choses. C'est ton amour, Seigneur, c'est ce que toi tu as accompli à la croix, ta résurrection, qui permet, Seigneur, qu'aujourd'hui nous soyons réunis virtuellement, mais réunis spirituellement. Seigneur, autour de ta parole et autour de ta et dans ta présence. Que tu puisses, Seigneur, diriger, Seigneur, cet enseignement, ce partage, qu'il puisse être, Seigneur, édifiant, bénissant, hein, qu'il serve d'instruction, Seigneur, et qu'il nous mette à jour avec ton cœur, avec ta pensée, Seigneur. Bénis chaque personne qui est déjà connectée là, qui va être avec nous, Seigneur, durant ce temps. Et d'autres, Seigneur, qui vont l'écouter plus tard. Je demande, Seigneur, qu'également ta bénédiction repose sur leur vie. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc voilà, nous sommes déjà rendus à la semaine numéro 54. Nous avons beaucoup couvert, beaucoup parlé en long et en large, en profondeur, sur ce qu'est le service, c'est quoi servir Dieu. Et servir Dieu aussi en temps de défis. Nous avons eu depuis plus d'un an bien des défis. Tant au niveau individuel, personnel, mais aussi en tant qu'Église, nous avons eu des défis. Nous avons eu des situations qui nous ont demandé de l'adaptation, de la prière, de la foi en action. Et tous ces défis-là, dans le fond, je pense qu'ils nous ont juste permis de nous améliorer, de nous perfectionner dans notre service à Dieu. Nous l'avons dit depuis le début, nous sommes sauvés pour servir. Nous avons été créés pour servir Dieu, et bien nous avons été rachetés, sauvés pour servir le Seigneur. Et tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, je pense que a servi et doit servir à nous améliorer dans nos services, de la façon comment le Seigneur nous appelle à le servir. Et donc, c'est ce que nous avons parlé durant toutes ces semaines et on arrive à la fin presque de l'évangile de Marc et on va voir qu'est-ce que le Seigneur va avoir pour nous. Au cours des prochaines semaines, mais tant que le Seigneur ne me dit pas ou ne nous dirige pas vers quelque chose d'autre, on va continuer à explorer davantage la richesse, la profondeur, mais aussi les défis que représente aujourd'hui servir Dieu en 2021. On va faire un petit retour bref sur ce que nous avons parlé la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de la reconnaissance, l'importance de la reconnaissance. On avait vu que c'est un thème qui est important dans la Bible. Beaucoup de versets dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, nous parle de rendre grâce, d'être reconnaissant. Et donc, de là, on peut comprendre que c'est quelque chose qui est assez essentiel dans les valeurs chrétiennes, qui est assez essentiel également dans la vie du chrétien. La reconnaissance, c'est savoir dire merci, c'est savoir exprimer de la gratitude. Et c'est de faire attention de ne pas tomber dans le piège de prendre Dieu pour acquis et de prendre les personnes aussi autour de nous pour acquis. C'est important et ça, ça va même au-delà de ce qu'on pourrait appeler le spirituel ou la foi. Dans toutes les sphères de notre vie, c'est important d'être reconnaissant, c'est important d'avoir de la gratitude envers les gens, c'est important de savoir dire merci et de le dire en toute honnêteté. La femme que nous avons vue dans le fond, dans le passage que nous avons lu à Béthanie, donc cette femme qui est rentrée dans la maison de Simon le lépreux et qui a versé dans le fond un parfum de grande valeur sur la tête de Jésus, elle a exprimé sa gratitude d'une façon bien particulière. Et on se posait la question, avons-nous de la reconnaissance envers Dieu? Et si oui, comment est-ce qu'on l'exprime? Comment est-ce que tu exprimes cette gratitude-là? Est-ce que tu en as? Est-ce que Dieu peut dire que dans ta vie, il y a cette expression-là de gratitude? Comme on emploie souvent le terme qu'on retrouve dans la Bible, des actions de grâce. D'élever vers le Seigneur des prières avec des actions de grâce. De lever des chants au Seigneur avec des actions de grâce. Donc la gratitude fait partie de notre adoration, fait partie aussi de notre louange ou de l'expression de notre louange. C'est important. Ça parle de notre amour pour le Seigneur, de notre réponse à son amour. Et là-dessus, eh bien, les personnes ne comprendront pas toujours les motifs ni l'expression de notre reconnaissance. C'est un langage, l'amour a son propre langage et chacun a ses propres expériences, chacun a ses propres bénédictions. Et donc, à chacun d'exprimer sa gratitude comme il l'a vécu, il le ressent. L'amour pour le Seigneur également passe avant le service. On ne sert pas en reconnaissance de façon mécanique, non. On sert le Seigneur par amour, parce que c'est notre réponse en lien avec son amour à lui. Donc, il a servi avec amour pour que nous soyons sauvés. Eh bien, notre réponse à nous doit être la même, de servir et par amour. Donc, que l'amour du Seigneur a cette primauté sur tout. Ce qu'on avait dit également, c'est que cette femme, ce qu'elle a fait, dans le fond, était un témoignage de l'œuvre de la grâce dans nos vies brisées. Seulement, la grâce de Dieu peut faire d'une vie brisée, d'une vie en morceaux, peut ressortir de cette situation-là quelque chose de précieux, de pur et de grande valeur. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut accomplir ça. Il n'y a aucune thérapie, aucun traitement dans le monde qui va pouvoir réaliser cela. C'est vraiment la grâce de Dieu qui peut faire d'une vie brisée quelque chose de merveilleux et de pur. Et le parfum également représente l'offrande de nos vies, en signe de gratitude justement. On a vu que dans l'Ancien Testament, il y avait un autel pour les parfums. Et donc, le parfum est une offrande, l'offrande de notre vie, de cette vie transformée, de cette vie qui a été rendue tellement merveilleuse par la grâce de Dieu. Et donc, notre réponse, cette gratitude-là, l'expression la plus grande de cette gratitude, c'est d'offrir nos vies comme une offrande, comme un parfum de grande qualité pour le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Marc au chapitre 14, à partir du verset 32 à 36. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et je vais procéder avec la lecture. Donc Marc au chapitre 14, verset 32 à 36, nous lisons, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, éveillés. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, dans le fond de ce chapitre, bon, dans certaines versions de la Bible, vous trouvez comme titre Histoire de la Passion. Et on parle beaucoup de la passion de Jésus. Il y a des films, il y a même un film dans ces dernières années dont le thème est la passion du Christ. Et qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que ça veut dire la passion dans le fond? Bien, la passion, c'est les gens comprennent par la passion du Christ les événements qui ont eu lieu durant la dernière semaine de la vie de Jésus. Donc, depuis son entrée à Jérusalem, que nous avons parlé de ça il y a quelques semaines en arrière, voire quelques mois même, jusqu'à la résurrection. Pas jusqu'à sa mort ni sa crucifixion, mais également jusqu'à sa résurrection. Jésus savait que son heure était proche, que bientôt il serait arrêté et il serait mis à mort. Jésus savait cela depuis le début et donc, on le voit, on l'a lu, il vit de grandes angoisses. Il vit une frayeur et une vie de grandes angoisses. Et on avait fait un lien il y a quelques semaines avec l'angoisse que bien des gens ressentent, même parmi les chrétiens, ressentent et ont ressenti durant ce temps de confinement et de pandémie, avec beaucoup d'insécurité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de choses inconnues devant. Qui a suscité énormément d'émotions en lien avec l'angoisse, avec la peur, avec la frayeur. Et on disait dans le fond que un chrétien peut ressentir ces choses-là parce que Jésus lui-même les a ressenties. Et donc aujourd'hui, si dans nos prières on dit Seigneur, je me sens angoissé, si on dit au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui j'ai peur. Mais il comprend exactement ce que nous sommes en train de vivre et de ressentir à ce moment-là. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir avoir un Seigneur, un Dieu qui nous comprend parfaitement. Mais malgré ces émotions-là, on voit que Jésus, dans le fond, garde le focus sur son mandat, garde le focus sur sa mission. Et sa mission, elle est bien simple, il est venu pour servir et non pour être servi. Ça, on le voit dans Marc, au chapitre 10, verset 45. Mais la Bible et les évangiles également nous parlent que Jésus est allé plus loin que cela. Il a fait plus. Il a mis, dans le fond, le comble à son amour pour eux. Et ça, on le voit dans Jean, au chapitre 13 et le verset 1. Et on le lit. Et avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. C'est-à-dire qu'il a donné, il a fait le maximum, il est allé jusqu'au sommet de l'Everest de l'amour, dans son expression de son amour, il est allé au top, au plus grand. Et c'est précieux de voir que le Seigneur, malgré les tensions, malgré la menace qui devenait de plus en plus forte et de plus en plus présente autour de Jésus, Jésus a gardé son focus. Jésus a gardé les yeux là où il devait, sur sa mission, et il n'a pas cessé de servir, et il n'a pas cessé d'aimer. Et c'est même dans ce contexte-là où est-ce que la menace était grandissante, où peut-être la frayeur, ou si l'angoisse commençait à prendre de plus en plus de place dans sa vie, mais c'est aussi à ce moment-là où est-ce que il a vraiment amené son amour et l'expression de cet amour au plus haut niveau. Et ça, c'est digne de louange. Ça, c'est digne d'honneur pour le Seigneur, pour notre Dieu. Donc, il a mis le comble à son amour pour eux. Le terme amour qui est employé ici, c'est agapao en grec, qui est dans le fond l'amour divin, le niveau supérieur d'amour. Il y a l'amour philéo, l'amour eros, qui touche plus le côté humain, mais l'amour agapao, c'est vraiment l'amour de Dieu. C'est l'engagement, la fidélité de Dieu qui se vit aussi entre les frères et les sœurs. Et nombreux versets, on trouve de nombreux versets dans la Bible qui parlent de nous aimer les uns les autres, d'avoir un amour les uns vers les autres. Et cet amour, c'est agapao, c'est-à-dire d'avoir l'amour de Dieu, le niveau d'amour le plus élevé, le calibre le plus haut d'amour qui reflète dans le fond la nature de Dieu. Parce que Dieu est amour, la Bible le dit, Dieu est amour et donc agapao, cet amour-là, est un reflet, une expression de la nature même de Dieu. Donc ce n'est pas n'importe quel amour, c'est un amour qui est pur, c'est un amour qui est puissant, c'est un amour qui est sincère, c'est un amour qui est honnête et qui transcende toute chose. 1 Corinthiens chapitre 13 parle et fait une déclinaison dans le fond de ce que c'est l'amour agapao. Donc important pour cela. Et c'est tellement important d'avoir et de vivre cet amour-là parce que c'est dans cet amour-là que Jésus a servi. C'est dans cet amour-là que Jésus a posé tous les gestes qu'il a posés. Il s'est déplacé, il a guéri, il a fait de grandes choses parce que c'était l'amour agapao, donc l'amour de Dieu qui était exprimé, reflété à travers lui. Et c'est tellement important parce que la Bible nous dit qu'il faut aimer nos ennemis. Et donc, on ne peut pas le faire sans l'amour de Dieu. Et donc, lorsque Jésus parle et dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il est en train de parler là de agapao, donc de l'amour de Dieu. Avec cet amour-là, aimez vos ennemis. Servez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est quelque chose, Dieu met la barre très haute, mais c'est parce que lui-même, en étant venu en chair en Jésus-Christ, il a mis cette barre haute, pardon, en mettant le comble à son amour pour nous. Donc, nous, on ne va pas être différents de lui. Et lorsqu'il dit, ben, aimez vos ennemis, c'est ça, c'est l'expression de l'amour divin, de la nature même de Dieu. Et il est impossible de parler de la passion de Jésus, donc de parler des événements de la dernière semaine de la vie de Jésus, sans parler de l'amour agapao de Dieu. Parce que dans tout ce que nous voyons, et on le voit dans le fond dans tous les évangiles, mais on dirait que c'est concentré vraiment dans la dernière semaine On voit qu'il l'amène à un autre niveau. On le voit qu'il concentre vraiment l'expression de cet amour agapao comme jamais auparavant. Et c'est ce qui, dans le fond, l'a amené jusqu'à la croix de Jésus. Donc, Jésus a servi avec amour, avec l'amour qui est la nature même de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, on ne déroge pas de cette loi-là. On ne déroge pas de ce chemin-là, si je pourrais dire plutôt. Et donc, il nous dit, aimez vos ennemis. Comment est-ce que tu vas aimer tes ennemis? Comment est-ce que tu vas aimer ceux qui te maudissent? Comment est-ce que tu vas bien traiter ceux qui te maltraitent et prendre soin de ceux qui te persécutent? Avec l'amour humain, c'est impossible. L'humain va chercher la vengeance. L'humain va chercher la rétribution. L'humain va se camper dans la rancune, dans le ressentiment, dans l'amertume. L'humain va glorifier ses blessures et va les maintenir vivantes tout au long de sa vie. Mais ce n'est pas le cas avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas le cas avec son peuple. Il dit clairement, aimez vos ennemis. La seule façon que cela est possible, c'est à travers l'amour agapao. Jésus avait des ennemis durant la Passion. Jésus avait des ennemis, des gens qui se sont manifestés ouvertement, voulant le tuer. Jésus a aimé ces gens-là. Jésus a aimé ces gens-là. Faut pas oublier. Jésus a établi un standard de service et d'amour à laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas viser moins et on ne peut pas déroger de cela. Lorsqu'on parle également de la passion, si on va un peu dans l'origine du mot passion, eh bien, lorsqu'on regarde le latin, ça veut dire patior. On a le mot pati aussi. En grec, il y a pathos. Et ça signifie souffrance, supplice, l'état de celui qui subit quelque chose de fort, d'intense sur lui-même. Et c'est drôle parce que souvent la passion, nous, on l'associe avec amour, avec quelque chose qu'on aime, avec quelque chose qu'on est profondément attaché, avec quelque chose qu'on ressent une forte attraction, un grand amour, et qui, dans le fond, est un sentiment ou une force qui nous submerge complètement, qui nous remplit, et qui même nous influence, et qui contrôle parfois nos décisions, nos comportements, nos attitudes, nos gestes. Lorsqu'on est passionné, c'est quelque chose qui dépasse, qui déborde. Et bien souvent, comme je vous le dis, on fait référence à quelque chose qu'on aime. Et on oublie ou on ignore que, dans le fond, l'origine même du mot passion, ben, est associée à la souffrance, est associée au supplice, et donc l'état de quelqu'un qui est en train dans le fond, de souffrir. Et je trouve que ça, c'est important de l'amener ici parce que ça parle complètement et parfaitement par rapport au Seigneur Jésus. La passion du Christ, dans le fond, c'est la souffrance qui a été requise, qui a été nécessaire pour la rédemption de l'humanité, mais c'est aussi l'expression la plus élevée de l'amour de Dieu à travers le Sauveur. Donc, dans la passion du Christ, il y a l'amour au plus haut et au plus niveau le plus élevé, mais il y a aussi la souffrance au plus haut niveau, ou au niveau le plus élevé. On ne peut pas dissocier ces choses-là. Et bien des fois, lorsqu'on est passionné par quelque chose, on aime tellement que même des fois, ça nous fait mal, on ressent une sorte de souffrance ou de douleur parfois. Donc, on ne peut pas dissocier ces choses-là. Donc, la passion du Christ, c'est la souffrance au plus haut niveau, mais c'est aussi l'amour. exprimer au plus haut niveau. C'est dans le fond la volonté de souffrir pour ce qu'on aime. C'est ça, être passionné. Si vous voulez savoir si vous êtes passionné pour quelque chose, posez-vous cette question-là. Avez-vous la volonté? Êtes-vous en mesure de souffrir? Êtes-vous prêt à accepter de souffrir pour cela, pour le sujet ou pour la personne que vous dites et ou que vous pensez aimer? Êtes-vous prêt à vous abstenir de plaisir personnel? Êtes-vous prêt à abandonner des intérêts personnels pour ce que vous aimez? Ça, c'est des pistes de réflexion que je suis en train de vous donner, mais qui sont dans le fond le témoignage de Jésus-Christ à travers tous les évangiles. Et lui-même le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il parle ici, dans ce verset-là, d'amour et de souffrance. Il parle d'amour et de mort. Et il dit, c'est ça la passion. C'est d'aimer au point où ce qu'on, il n'y a pas de problème de souffrir pour ce qu'on aime. Et un autre verset dans Romains chapitre 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour. Donc, il fait la démonstration nette et évidente de son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, encore une fois, on retrouve ces deux éléments-là, d'aimer, Dieu prouve son amour, et comment il le prouve? Christ qui meurt pour nous. Voilà la passion de Christ. La passion de Christ, c'est la volonté de souffrir, même de mourir pour ce qu'on aime. Et donc, Jésus, dans le fond, était une vie passionnée pour les âmes souffrantes, oui. On l'a vu depuis la séance numéro 1, que Jésus, c'est cette vie. La vie de Jésus, c'est une vie passionnée pour les âmes souffrante et pour ses disciples. Et un service passionné pour Dieu et pour tous. Donc Jésus était prêt à souffrir pour les âmes souffrantes, pour les âmes perdues et pour ses disciples et pour l'Église. Et Jésus a servi avec passion, donc avec amour, mais aussi avec cette acceptation de souffrir, de payer le prix, de se restreindre lui-même, humainement parlant, pour le bien de tous, mais également pour que le Père soit honoré. Et ça doit nous amener vers une réflexion. Et je vous donne des pistes. Dans le fond, je ne sais pas si en bougeant ça, peut-être. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui présentement tu peux dire, oh, j'ai quelque chose dans ma vie qui me passionne, que je suis prêt à faire des sacrifices pour cela parce que c'est quelque chose qui définit ma vie. Et donc, je suis prêt à souffrir même par amour pour cette passion-là. Peut-être que tu n'en as pas et que tu es présentement, ou depuis un certain temps, peut-être depuis 50 ans, tu es à la recherche d'un sens à la vie. Tu n'as aucune passion, il n'y a rien qui te transporte ou rien qui te vient te chercher. Ben, c'est sûr qu'il y a un travail à faire là aussi, parce que nous avons tous un sens. Dieu a mis à chacun d'entre nous un sens à la vie et peut-être que cette recherche-là, avec l'étude d'aujourd'hui, va te permettre d'avoir des débouchés et d'avoir, dans le fond, des nouvelles ouvertures vers la définition du sens de ta vie et surtout de ce qui te passionne vraiment. Et l'autre question, c'est qu'on doit tous se poser, c'est vivons-nous la passion de Christ? Vivons-nous cette passion-là? Est-ce que lorsque nous servons à l'Église ou lorsque nous servons tout court, que ce soit à l'extérieur de l'Église aussi, est-ce que nous servons avec la passion de Christ, c'est-à-dire avec cet amour agapao, avec cet amour qui est la nature même de Dieu, et avec cette acceptation, j'irais dire, cette disposition même à payer le prix, à faire des sacrifices, à renoncer à soi-même pour dans notre service. Je pense que ce sont des pistes de réflexion, de méditation, de prière même, qui sont importantes parce que une chose est se servir et une autre chose se servir avec passion et plus encore avec la passion de Christ. Le service que toi et moi, nous devons donner à l'Église, à Dieu et à la communauté, c'est un service qui reflète la passion de Christ. Donc, l'agapao, l'amour de Dieu, la nature de Dieu, mais aussi la disposition à se sacrifier, à faire des sacrifices, à faire des choix qui sont parfois difficiles, mais qui sont nécessaires pour que des vies soient touchées, pour que des âmes, soient transformées, pour que Dieu puisse se manifester par la suite et qu'on puisse voir vraiment des vies transformées, des transformations, de la puissance et de la gloire de Dieu. Donc voilà des pistes qui, je pense, sont importantes qu'on prenne peut-être cette semaine comme réflexion, Seigneur. Qu'est-ce qui me passionne? Peut-être présentement, j'ai une passion, mais elle ne sert à rien pour Dieu. Et peut-être que mon service, que ce soit avec un rôle, une responsabilité à l'Église, ou le service, parce que nous sommes tous appelés à servir, donc. Même lorsqu'on n'a pas un rôle ou une responsabilité définie dans l'Église, nous sommes quand même dans un service à Dieu. Eh bien, est-ce qu'on est en train de le faire selon les critères et selon également le modèle de Jésus? D'où l'importance de redécouvrir, dans certains cas et peut-être pour d'autres, de connaître pour la première fois qu'est-ce que la définition de la passion selon Christ. Et la passion, c'est de servir avec amour, avec l'amour de Dieu. Mais c'est également d'accepter, de faire les choix qui sont nécessaires, parfois difficiles, mais qui sont nécessaires pour que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Et donc, ça nous amène, dans le fond, à Gethsémani. Ça nous amène là où Jésus dit dans sa prière, alors qu'il est en angoisse, alors qu'il est rempli de frayeur, il dit, si c'est possible que cette coupe passe, il fait la demande, mais il garde le focus et il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le service avec passion commence par des petites choses. C'est pas à Gethsémani que le Seigneur a commencé à servir avec amour et avec passion. C'était depuis le jour numéro un. Et nous aussi, depuis le jour numéro un, ça devrait être notre bannière, notre standard. Parce qu'il va arriver des moments de crise dans notre vie. Il va y avoir des moments très difficiles dans nos vies où notre engagement va être mis au défi, où notre foi va être mise à l'épreuve, où notre dévotion, notre consécration va être mise à l'épreuve. Et je pense que seulement les personnes, seulement les gens qui sont des gens de passion pour Christ vont passer à travers ces épreuves-là. Ils vont être capables de dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Et c'est ce qu'on lit dans le verset 36. Il dit Abba, Père. C'est très personnel, c'est très intime, c'est très profond. C'est pas religieux. Jésus n'est pas en train d'employer un langage, un vocabulaire qui est religieux. Jésus n'a jamais employé un langage religieux. Nous, des fois, on pense que dans les paroles qu'on mentionne, on va aller émouvoir le Seigneur. D'aucune façon. À ce moment-là, Jésus, en tant qu'homme, était très, très, très terre à terre, très sincère et très personnel. Puis il dit, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À ce moment-là, dans la passion de Christ, une décision importante a été prise, une décision déterminante pour l'histoire de l'humanité. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, cette décision-là, c'est une décision que nous sommes appelés à prendre, à imiter à chaque jour, dans les petites choses de la vie, comme dans les grandes. On n'aura pas à porter le fardeau de l'humanité, là. On n'aura pas à porter le fardeau du péché du monde. Jésus l'a fait déjà, il l'a déjà accompli, ça. Mais par contre, dans notre quotidien, dans des petites choses comme dans des grandes, ce sera une décision à imiter. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Il y a un match des Canadiens. Ils sont en série éliminatoire. Ils gagnent les matchs. La ville a la fièvre du hockey. Tu voudrais t'asseoir, regarder le match tranquille et vivre l'expérience du hockey, des séries éliminatoires. Mais tu sais qu'il y a un frère qui est dans le besoin. Tu sais qu'il y a une sœur qui t'a peut-être contacté, qui t'a peut-être appelé, qui aurait besoin d'une aide, d'un service. C'est là où est-ce qu'on prend ces décisions-là de servir avec passion, avec la passion de Christ. C'est là où est-ce que ces décisions-là et notre vrai service prend son sens. Non pas ce que je veux. Je voudrais m'asseoir devant ma télé, dans mon sofa, regarder le match, mais pas ce que je veux. Seigneur, ce que tu veux. Il y a un besoin dans le peuple de Dieu. Je peux être une personne qui apporte une solution, qui apporte une bénédiction. Je peux être un instrument entre les mains du Seigneur. Non pas ce que je veux, ce que tu veux. Et le faire par amour. Et donc même là, dans cet exemple que je vous donne là, il y a une souffrance. Il y a une forme de souffrance qui s'installe, mais il y a aussi une expression de l'amour de Dieu envers un bien-aimé, un frère, une sœur qui est dans le besoin et que nous pouvons être un instrument, pardon, entre les mains de Dieu. Donc, bien souvent, on pense qu'on doit prendre les mêmes décisions de Christ, que nos décisions auront le même poids que celui de Jésus. Non, Jésus a accompli ce qu'il avait à accomplir. Et il dit que son joug est facile. Donc, on n'aura pas le même fardeau. Des fois, des gens se découragent parce qu'ils pensent qu'ils auront à porter le même fardeau que Jésus. Non. Mais dans chaque décision, dans plusieurs situations, si je pourrais dire, plutôt des petites situations comme des grandes situations, nous serons appelés à prendre une décision, soit de servir avec passion ou de ne pas servir avec passion. Avec ça, on réalise une chose, et c'est peut-être un jeu de mots, là, mais ça prend de la volonté pour renoncer à sa volonté et faire la volonté de Dieu. C'est pas une simple décision. Aujourd'hui, en 2021, dans une société de consommation de masse, dans une société où est-ce que on recherche, avec toute la pression qu'il y a, tout le stress, on recherche à avoir le plus de moments de confort, de tranquillité possible. Ça prend du courage, ça prend de la volonté de renoncer à sa propre volonté pour accomplir la volonté de Dieu. Et renoncer à soi-même par amour, toujours, est une forme aussi de souffrance ou engendre une certaine forme de souffrance. Parce que on marche sur notre ego, on laisse de côté nos propres intérêts, nos propres désirs, et donc on met de l'avant les désirs ou la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Et je dis bien par amour parce que on pourrait bien faire des choses et donner l'impression qu'on le fait par amour, mais le Seigneur voit et juge si vraiment ce que nous sommes en train de le faire, nous le faisons avec la passion du Christ et donc avec cet amour agapao. Et il le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3 qui dit: quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, moi, je dis, même si j'accepte de souffrir, là, je me mets à la place de la personne, je donne tout ce que j'ai, même mon corps, j'accepte de souffrir sur mon propre corps pour cette personne-là, si je ne le fais pas par la charité. Donc, s'il n'y a pas l'agapao, s'il n'y a pas la passion du Christ, là, dans ce que je fais, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. D'où l'importance de revenir et de vraiment statuer que la passion, c'est l'expression d'amour, mais c'est aussi, oui, de la souffrance pour le bien des autres. C'est pas juste ça, je vais souffrir, les gens vont voir que, oh, je me sacrifie pour un tel ou pour une cause ou pour ci, pour ça, puis que après ça, les gens vont dire: waouh, t'es vraiment spirituel, t'es vraiment un vrai chrétien, t'es vraiment quelqu'un là. Il y en a qui vont faire ça pour aller chercher de la sympathie, de la renommée, t'sais, de l'appréciation des autres. Donc, ils font ça pour obtenir la faveur des gens. Ils le font pas pour honorer Dieu. D'où l'importance de toujours garder ça en tête, que si je n'ai pas la passion de Christ, si je n'ai pas l'amour agapao, si je n'ai pas l'amour de Dieu, si je n'ai pas la charité, tout ce que je fais aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Un autre verset, puis là, dans le fond, je me suis trompé ici, ce n'est pas 1 Corinthiens chapitre 13, 3. C'est dans une autre référence. Il dit que chacun de vous, dans le fond, ça c'est dans Philippiens, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien souvent, et là c'est deux versets qui ont été employés ici. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien souvent, on commence, disons, notre réflexion sur ce verset-là, et puis on poursuit par la suite lorsqu'il dit que Jésus, étant Dieu, a pris la forme humaine, qui s'est rendu serviteur, qui était obéissant jusqu'à la mort. Ça, c'est dans le fond, dans Philippiens, au chapitre 2. Versets 4 et 5. Donc, pour ceux qui prennent des notes, Philippiens chapitre 2, versets 4 et verset 5, qui dit, dans le fond, c'est ça, que chacun de vous, donc verset 4, que chacun de vous, Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et verset 5, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien des fois, comme je disais, on part notre réflexion à partir du verset 5 et pas du verset 4. Mais ici, j'ai vraiment senti de les mettre ensemble parce que les sentiments qui étaient en Jésus faisaient en sorte qu'il lui mettait les priorités ou les intérêts des autres avant les siens. Et qu'au lieu de considérer ses propres intérêts, ben, il considérait aussi ceux des autres. Je pense que tu sais, c'est clair, c'est direct. Voilà ce que c'est vivre selon la passion de Christ. C'est ça. Que les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, ben, puissent être en toi, puissent être en moi. De sorte que, au lieu de considérer constamment mes propres intérêts, ben, que je commence à considérer ceux des autres aussi. Et ça s'apprend. La grâce de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. La grâce de Dieu, elle n'est pas juste pour nous pardonner lorsqu'on commet une faute. Grâce de Dieu, son travail, son mandat, sa portée est beaucoup plus grande et profonde que ça. Elle nous enseigne vraiment à vivre comme des vrais enfants de Dieu et à être comme Jésus-Christ. Donc, il est clair, ayons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et comment est-ce que cela pourra être prouvé ou démontré? C'est lorsqu'au lieu de considérer nos propres intérêts, nous allons aussi considérer ceux des autres. Donc, je répète la référence, c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 4 et 5, ce que vous voyez là à l'écran. Malheureusement, c'est une petite erreur qui s'est glissée. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. As-tu la passion du Christ en toi? Ayez en vous les mêmes sentiments qu'étaient en Jésus-Christ. As-tu la passion du Christ? Et est-ce que cela est évident dans ta vie? On a des belles réflexions à avoir, je pense. Chacun, personnellement, et je m'inclus moi-même là-dedans. Donc, en résumé, malgré les émotions dans la dernière semaine de la vie de Jésus, et nous l'avons lu au début, il dit qu'il est dans grande angoisse. Il y a de la frayeur. Jésus se dirige quand même à Gethsémani. Jésus célèbre la Pâque. Jésus exprime son amour et même il l'amène à son comble. Et on a vu aujourd'hui que l'amour agapao, c'est la nature même de Dieu. Lorsque la parole nous exhorte et nous encourage à s'aimer les uns les autres, c'est pas dans l'amour humain. C'est dans la nature même de Dieu. L'amour que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, faisons attention, c'est la nature même de Dieu. Pas moins que ça. Il est impossible de parler de la passion de Jésus-Christ sans parler de l'amour de Dieu et sans parler également de la souffrance, de ce qu'il a vécu comme souffrance jusqu'au calvaire. La passion du Christ, c'est la souffrance qui a été demandée, qui a été requise pour la rédemption de l'humanité. Et c'est aussi l'expression la plus élevée de l'amour de Dieu à travers le Sauveur. Et on l'a vu dans les versets où est-ce que il parlait d'amour et parlait de souffrance. Il parlait qu'il n'y avait pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et que Dieu prouve son amour alors que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc, amour et souffrance, voilà la passion du Christ. La volonté de souffrir pour ce qu'on aime. La question, vis-tu la passion du Christ ou as-tu la passion du Christ? Toi, moi qui servons le Seigneur, le servons-nous avec cette même passion-là? Toi, moi qui servons l'Église, qui servons la communauté, qui servons Dieu, est-ce que nous servons Dieu avec cette passion-là, avec ce niveau d'amour le plus élevé, mais aussi cette disposition à se sacrifier jusqu'à la mort pour lui? Pour renoncer à notre propre volonté, ça prend de la volonté. Et renoncer à soi-même est en soi une forme de souffrance. C'est pas dans la nature humaine. La nature humaine va à l'encontre de ça. Renoncer à soi-même, considérer les intérêts des autres avant les nôtres, c'est pas la nature humaine, non. C'est de la nature carrément divine. Et donc, oui, ça génère. Ce sont des sacrifices qui génèrent une sorte de souffrance. Et la recommandation, le conseil pour tous aujourd'hui, ayons les mêmes sentiments que Christ, servons avec passion, mais pas n'importe quelle passion, avec la passion de Jésus-Christ. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été grandement bénis, que les pistes de réflexion vont être utiles dans votre méditation, dans vos temps de prière avec le Seigneur. Et posons-nous la question. Posez-vous la question, est-ce que vous servez avec passion, avec la passion de Christ? Sinon, commençons à le faire. Commençons tous à le faire. Car Dieu va se glorifier et nous allons pouvoir même avoir un meilleur effet dans la communauté et partout ce que Dieu va nous appeler à servir. Donc, on va prier maintenant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce temps, ce partage, Seigneur. Tu as servi avec passion. Ton service, Seigneur, était passionné, Jésus, du début jusqu'à la fin. Et nous comprenons aujourd'hui qu'est-ce que la passion de Christ veut dire. D'exprimer la nature de Dieu même. Et Seigneur, de se sacrifier, de renoncer à soi-même, de porter sa croix, d'accepter de souffrir, Seigneur, pour l'autre, par amour. Voilà la passion qui était en Christ, voilà la passion à laquelle tu nous appelles d'avoir, Seigneur, chacun d'entre nous, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Aide-nous, Seigneur, là où nous sommes, dans la condition que nous sommes, dans la maturité que nous avons, aide-nous à progresser et à vraiment nous diriger, Seigneur, dans cette avenue-là pour être plus comme Christ. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Prends contrôle de cette soirée, Seigneur. Bénis les familles, bénis les enfants, bénis les adolescents, les jeunes adultes, Seigneur, les parents, Seigneur, et nos aînés également, qu'ils soient bénis. Par ta grâce sublime, Seigneur, et par ta paix. Et que nous puissions continuer, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur Jésus, avec toi. Ton nom précieux, Seigneur. Amen. Donc, n'oubliez pas demain la bénédiction matinale avec le pasteur Florent. Ça se poursuit. N'oubliez pas également. Bonnes nouvelles qui ont été annoncées dimanche par rapport au déconfinement et la possibilité de accueillir jusqu'à 100 personnes à partir de 8 ans et plus. Donc, n'oubliez pas les inscriptions. Je crois qu'elles sont toujours possibles. Donc, contactez par courriel secrétariat@gmail.com ou j'utilise ça, secrétariat, ou sinon, numéro de téléphone de l'Église, 514-273-8295. Important que vous ayez une confirmation, mais important aussi que vous identifiez bien qui sera là, vous êtes combien de personnes, les noms et tout ça. Et important aussi que vous ayez une confirmation de votre réservation, dans le fond, pour ce dimanche. Et on va être très, 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 très content de vous voir et de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur. Donc là-dessus, je vous dis ciao. Shalom, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.